Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Carnet de région proposée par les radios associatives de l'ARA. C'est 48 FM qui en prend la rédaction en chef pour ce mois d'octobre. Au sommaire du Carnet de région, Uber débarque à Montpellier. Les chauffeurs VTC doivent faire face au mécontentement des exploitants taxis. Un sujet de RCF Maguelone, Hérault. On va rester sur la route pour ce carnet de région avec le chef escadron Fabien Jaffard qui a pris le commandement de la compagnie de gendarmerie de l'Audève. Nous l'entendrons au micro de Damien Saintès de Radio l'Audève. Le Parlement de la Montagne voulu par Carole Delga, présidente de la région Occitanie, vient d'entrer dans une seconde phase. Nous ferons le point dans ce journal avec Aurélie Mayol, vice-présidente de la région en charge de la montagne, au micro de Ludovic Perrol de 48 FM. Direction les Cévennes gardoises à Saint-Hippolyte-du-Fort, où des habitants continuent de se réunir pour accueillir des réfugiés. Un sujet d'Anouk Maillard de Radio Escapade. Nous resterons dans les Cévennes pour visiter la Maison Rouge de Saint-Jean-du-Gard, avec comme guide Yves Defago de Radio Grille Ouverte. Nous irons ensuite en Nord-Lozère, du côté de Saint-Chély-d'Apcher, avec Nathalie Maury de Radio Margeride pour nous intéresser à la construction d'un pôle culturel. Et nous terminerons ce carnet de région en parlant d'Octobre Rose, l'opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Uber débarque officiellement à Montpellier. Uber, c'est cette application qui vous met en contact avec des chauffeurs VTC. La capitale héraultaise devient la 11e ville à bénéficier de ce service. Les taxis dénoncent une concurrence déloyale car Uber paierait moins de charges sociales. Raphaël Morel est responsable du développement d'Uber dans l'Ouest. Il conteste ces accusations.
Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Tous les chauffeurs étant professionnels et bénéficiant d'une structure juridique déclarée, ils payent exactement les mêmes charges que les taxis, c'est-à-dire la TVA, leurs charges sociales, leurs impôts, comme toute structure juridique existant en France. Nous, le message qu'on passe toujours, c'est que lorsque nous ouvrons nos services dans une ville, la communication et le marketing qu'on peut faire autour de notre présence vient finalement convaincre des personnes d'utiliser un service de transport tel qu'Uber, alors qu'avant, ils n'étaient peut-être pas utilisateurs de services comme les taxis. Donc en fait, notre message, c'est toujours de dire qu'on vient augmenter la taille du gâteau, évidemment, et c'est un gâteau dans lequel, évidemment, les taxis peuvent se servir, puisque le fait de convaincre des nouvelles personnes d'utiliser Uber, parfois, va aussi convaincre des personnes d'utiliser également les taxis. Et puis, c'est aussi une opportunité, les taxis peuvent utiliser l'application Uber en tant qu'apporteur d'affaires, donc eux-mêmes peuvent en profiter directement.
Serge Viguier, président de la Fédération des exploitants taxis de l'Hérault, explique que le fait que les chauffeurs et non Uber payent les charges change beaucoup de choses.
Nous, on a des tarifs qui sont imposés par l'État, par Bercy. Et dans ces tarifs-là, il y a nos cotisations sociales, nos impôts de la TVA. Et eux, Uber, c'est une plateforme qui est basée en Hollande. Quand le client appelle à leur service, ils encaissent l'argent directement en Hollande. Ça fait qu'il n'y a pas d'impôt en France, quoi. Et ils gardent 25% de la course, ils rétrocèdent l'argent à leurs chauffeurs, que eux vont payer des cotisations là-dessus. Ils vont travailler dans la précarité, après ça c'est leur problème, c'est qu'ils font leur choix. Hein. Ils viennent sur le marché des taxis alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes formations ou autres, ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas toutes les contraintes d'un taxi. Uber, ils viennent, ils imposent leurs tarifs, leurs lois à eux, ils ne respectent pas du tout la loi française et on ne comprend pas du tout l'attitude du gouvernement à leur sujet. Alors que dans d'autres pays, Uber est remis en cause.
Serge Viguier, président de la Fédération des exploitants de taxis de l'Hérault, joint par Alice Berthias de RCF Maguelone Hérault. Depuis le mois d'août, le chef d'escadron Fabien Jaffard a pris le commandement de la compagnie de gendarmerie de l'Audève. Celui qui a notamment remplacé le commandant Philippe Sell se présente au micro de Damien Saintès de Radio l'Audève.
Alors je suis officier de gendarmerie depuis bientôt 18 ans. J'ai un cursus qui était plutôt basé sur la gendarmerie mobile et l'intervention, puisque j'ai occupé les différents postes de commandant peloton en l'escadron de gendarmerie mobile de Nîmes. Et j'ai été à deux reprises commandant d'unité de l'antenne GIGN de Orange et l'antenne GIGN de Martinique. Cette expérience professionnelle m'a permis de m'orienter après vers de l'instruction, donc d'essayer de redonner les qualifications que j'avais pu acquérir pendant ces années. au sein du Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie à Saint-Astier, donc en Dordogne, qui est un centre connu au niveau national et surtout international, puisque l'ensemble des gendarmes de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile viennent pour des recyclages, des formations, et beaucoup de pays étrangers viennent pour recueillir la formation et la base du maintien de l'ordre à la française.
Comme il vient de l'expliquer, le commandant Jaffar revient sur la différence qui va animer son travail en gendarmerie départementale, lui qui a principalement fait sa carrière jusque-là, dans la gendarmerie mobile.
Certes, c'est un nouveau métier. Maintenant, moi, pendant toute ma carrière, j'ai travaillé au profit de la gendarmerie départementale, parce que le gendarme mobile, il travaille au profit de la gendarmerie départementale. La remise en question opérationnelle, professionnelle, c'est le cœur même du métier d'officier de gendarmerie. Donc c'est quelque chose, la remise en question avec mon passé professionnel, c'est quelque chose d'habituel, de courant. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Maintenant, certes, ça prend du temps. Il va falloir que j'arrive à prendre mes marques, que j'arrive à regagner le wagon de tête du train qui est en marche de la compagnie Lodev, qui fonctionne très bien. On a de très bons résultats, notamment sur cette année 2017. À moi de gérer, de faire fonctionner au mieux l'ensemble de ces personnels qui sont complètement dédiés à la sécurité des concitoyens d'une partie de l'arrondissement de Lodève.
La compagnie de gendarmerie de Lodève est compétente sur 25% du territoire de l'Hérault, avec 93 communes et 90 000 personnes qui l'habitent.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Tout cet été, la région Occitanie a lancé une série de rencontres territoriales pour préparer le futur Parlement de la montagne, des réunions avec des acteurs des territoires de montagne afin de définir les thématiques qui devront être travaillées par la suite. Et fin septembre, au Palais des Congrès de Mazamé dans le Tarn, le Parlement de la montagne est entré dans une deuxième phase qui va permettre de définir le format et le fonctionnement du Parlement. Écoutez Aurélie Mayol, vice-présidente de la région, en charge de la montagne.
Alors ces rencontres territoriales nous ont d'abord permis d'identifier les grandes thématiques qui préoccupent les montagnards, les habitants des territoires de montagne. Elles sont au nombre de cinq grandes thématiques qui ressortent de ces ateliers. C'est d'abord le désenclavement, donc là-dedans on met les transports et le numérique. Le tourisme aussi, une forte demande d'un développement touristique sur ces territoires de montagne, au-delà de la pratique des sports, on va dire, de neige, donc plus sur les arrière-saisons, l'automne et le printemps. Une grande demande aussi autour du renforcement des services publics sur les territoires de montagne. Un besoin également en innovation et expérimentation de nouveaux modèles de développement économique qui se baseraient sur les savoir-faire et les atouts de ces territoires de montagne. Et la cinquième grande thématique, c'est l'environnement, le patrimoine naturel, la préservation finalement de notre qualité de vie. Donc ça, c'est les cinq thématiques qui ont été identifiées sur les sept réunions territoriales, dont une à Florac. Et maintenant, on passe dans la deuxième phase du Parlement de la montagne, qui consiste à définir son format et son fonctionnement. Quand je dis fonctionnement, c'est à la fois ses missions, donc sur quoi va travailler le Parlement de la montagne, mais aussi quelles vont être ses relations avec la région. Et donc ça, c'est à partir du 20 septembre que l'on va y travailler pour une installation, une création finalement du Parlement de la montagne véritablement mi-décembre.
Voilà, c'était Aurélie Mayol qui répondait à Ludovic Terol de 48 FM. Direction les Cévennes, à Saint-Hippolyte-du-Fort, où des habitants continuent de se réunir pour accueillir des réfugiés. Comment est né ce collectif? Comment s'organise-t-il? Que mettent-ils en place pour faciliter cet accueil? Comment se passe cet accueil du côté des municipalités? Myriam Char, membre du collectif depuis son origine, témoigne de ces différentes réalités. Une interview réalisée par Radio Escapade.
Alors, c'est un mouvement tout à fait spontané de la part de quelques Cigalois qui, lorsque l'on a entendu parler de ce qui se passait en Syrie, etc., se sont réunis en se demandant qu'est-ce qui pourrait être fait pour accueillir des migrants, des réfugiés plutôt, si toutefois il en arrivait sur Saint-Hippo. Donc ça date de 3 ans et puis effectivement il y a eu l'année dernière une arrivée sur Saint-Hippo de jeunes Soudanais. Donc le collectif s'est mis en activité. Donc il s'agit de personnes bénévoles. Il y a pas d'association, il y a rien. Il y a juste des personnes qui se réunissent et qui réfléchissent ensemble à ce qu'elles peuvent apporter, à l'aide qu'elles peuvent apporter aux réfugiés qui sont hébergés sur Saint-Thibault.
Combien de jeunes sont aujourd'hui sous la gestion du collectif ?
Alors, ils sont pas sous la gestion du collectif, hein, ils sont pris en charge par des structures qui sont des CAO ou des CADA. Ces structures ont décidé d'héberger ces réfugiés dans des appartements individuels sur Saint-Thibault. Et sur Saint-Thibault, actuellement, il y a 5 Soudanais qui partagent un appartement, et au Marengo également, il y a 6 Soudanais. Il y a également 2 familles d'Albanais et 1 famille d'Algériens.
Donc tout ce petit monde qui est accueilli à Saint-Hippolyte-du-Fort. Quelles sont, vous, vos actions en tant que collectif citoyen pour épauler, accompagner au mieux ces jeunes Soudanais et ces familles aussi ?
Nous, on est en lien avec le CADA et le CAO qui s'occupent vraiment de la prise en charge de ces réfugiés. Et ce que l'on apporte, c'est une contribution complètement bénévole à travers, par exemple, des cours de français, à travers un soutien, parce qu'il faut comprendre que ce sont des gens qui souvent arrivent là au bout d'un parcours, d'un chemin assez terrible, que ce sont des gens qui sont terriblement seuls et perdus, et ce dont ils ont besoin, c'est d'arriver quelque part et de s'y sentir un petit peu accueillis. Donc on fait des choses qui peuvent être super simples, comme d'aller à leur rencontre, passer boire un thé avec eux, organiser une balade, les inviter à manger, des choses comme ça. Après, il y a des actions un petit peu plus, les cours de français, ou bien essayer de réunir parce qu'ils ont un budget qui est vraiment pas énorme, hein, pour vivre. Donc parfois ils peuvent avoir des besoins de vêtements, des besoins de nourriture. Dans ces cas-là, on peut essayer de récolter ce dont ils ont besoin.
Actuellement, vous, au sein du collectif, est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous êtes à la recherche d'aide matérielle ou même humaine? Je ne sais pas, est-ce que d'autres bénévoles peuvent se joindre, se greffer à l'aventure? Comment ça se passe de ce côté-là?
Sur Saint-Thibault, on s'est beaucoup occupé de 4 jeunes Soudanais qui étaient là et qui en sont partis. Il y en a 5 nouveaux qui viennent d'arriver. Et les besoins actuels, pour l'instant, tout va bien, il ne fait pas trop froid. Peut-être au début de l'hiver, là, on peut avoir besoin de vêtements, etc. Auquel cas, on met cette information sur le site.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Pour les lecteurs d'Alexandre Dumas, le nom de Maison Rouge évoque le 5e roman des Mémoires d'un médecin, Le Chevalier de Maison Rouge, jadis transposé au petit écran du temps de l'ORTF, soit au siècle dernier. Et c'est précisément en 1965 que Maison Rouge, la dernière filature de soie des Cévennes, cessa son activité à Saint-Jean-du-Gard. 52 ans plus tard, Maison Rouge, lieu d'histoire et de mémoire désormais inscrit à l'inventaire des monuments historiques, est devenu le musée des Vallées Cévenoles, dédié à la vie rurale des Cévennes du XVIIe siècle à nos jours. Intégré au plan Musée en Région par le ministère de la Culture, Maison Rouge a été inauguré et ouvert au public en septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Inclus dans le périmètre d'Alès Agglomération, le musée des Vallées Cévenoles présente une scénographie moderne, claire et spacieuse. Pas moins de 10 000 objets sur les 30 000 que collecta avec passion et patience Daniel Travier, son fondateur.
Pour moi, l'objet n'est pas qu'un objet, aussi beau soit-il. Moi, j'ai un rapport fusionnel parce que chaque objet, derrière, j'y mets un visage. Derrière, j'y mets un homme, j'y mets une femme qui me l'a donné, qui m'en a parlé, qui m'a raconté, qui m'a raconté sa vie, qui m'a raconté des tas de choses. Donc, forcément, c'est une relation humaine très très forte. Même si ce sont des objets inanimés, comme disait le poète, ils sont inanimés, mais en même temps, ils traduisent quelque chose. Et encore plus pour moi, parce que j'ai connu, j'ai vécu et j'ai emmagasiné tous ces savoirs. Et donc, je vous dis, j'y vois des têtes, j'y vis des... Là, je pourrais vous dire, sur tous les objets, ça vient d'ici, c'est une tête qui me l'a donné, je l'ai eu de telle manière, etc.
précisément, qu'est-ce qui vous anime, vous, à ranimer ces objets ?
D'abord, j'ai vécu dans les années 50, c'était l'épisode bas, la phase basse des Cévennes. C'est la démographie la plus faible qui soit, fin des années 50, début des années 60. Après, il va y avoir une amorce de regain. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique dans ce pays. Mais là, il y a eu une lassitude extrême. Et les gens que je rencontrais, c'était des anciens, les enfants étaient partis. Ils disaient après nous, c'est fini. Et ils en arrivaient même à dire, notre culture est finie, elle n'a pas de sens. La modernité est ailleurs, la modernité est en ville. Et la culture, la vraie, avec un grand cas, elle est en ville. Et nous ici, c'est fichu. Et de voir un gamin qui s'intéresse à eux, qui ramasse, qui les fait parler. Forcément, ça les a valorisés. Et ils mettaient, en plus, c'est des personnes âgées qui n'avaient pas autre chose à faire, et ils m'étaient très, très, très ouverts à me parler, à me raconter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens qui faisaient un complexe d'infériorité d'un point de vue culturel, en fait, avaient une culture extraordinaire et d'une force extraordinaire. Et donc, ce qui m'a motivé, c'est de donner la parole à ces gens qui ne sont plus au travers de ces objets. Ça fait plus de 55 ans que je fais ça, que je ramasse les objets, que j'ai ces contacts avec les gens. Je fais ma première exposition en 64, premier musée en 69, puis on l'a refait en 82 où il a pris un peu plus d'ampleur. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est un véritable aboutissement pour moi. Ça, c'est tout à fait clair. Mais moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce sont les objets et qu'au travers eux, ben, on est un regard sur les Cévennes et sur leur peuple. L'originalité et l'intérêt de ce pays résident dans quoi ? Dans son histoire et dans son peuple.
Le musée des Vallées Cévenoles ouvre ses portes cet automne pour une période d'expérimentation avant de fermer de janvier à mars 2018 pour effectuer les dernières mises en place, avant de rouvrir ses portes en avril 2018 à l'occasion de la saison touristique. Un reportage réalisé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte. En Orlozère, à Saint-Chély-d'Apché, la salle des fêtes vient d'être détruite pour laisser place à un nouveau pôle culturel. Ce nouvel espace complémentaire du ciné-théâtre en centre-ville pourra accueillir des spectacles vivants, des concerts, des soirées dansantes, des conférences et des salons. L'agrandissement du bâtiment permettra d'augmenter la capacité d'accueil, limitée jusqu'alors à 300 personnes, alors que certains événements peuvent regrouper plus de 600 personnes sur la commune. Les travaux aideront également à la mise en accessibilité et à la mise aux normes sécurité de la construction. Écoutez Pierre Lafont, maire de la commune.
Ce pôle culturel est un complément au ciné-théâtre. Alors ce ciné-théâtre comporte à peu près 170 places et ne peut recevoir que ce qu'on appelle les petites formes. Et aujourd'hui, Saint-Chély est attractif et nous voulons à tout prix un complément à ce ciné-théâtre pour recevoir les grandes formes d'une part et puis pour agrandir la salle des fêtes. Laquelle salle des fêtes ? On n'a accepté que 300 personnes. Aujourd'hui, avec le prochain pôle culturel salle des fêtes, nous accueillerons 600 personnes. Eh bien, le pôle culturel sera moderne, bien évidemment, et va faire à peu près 600 mètres carrés avec des cloisons mobiles pour pouvoir séparer la salle, parce qu'une salle de 600 mètres carrés, c'est grand, avec une scène de 150 mètres carrés. Et il y aura une verrière qui va donc donner sur le pré qui est attenant. Alors il y aura un problème d'acoustique, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur l'acoustique pour ne pas gêner l'environnement et le voisinage, et nous avons pris des ingénieurs acousticiens. Alors je vais vous donner un exemple. Si par exemple dans la salle des fêtes il y aura, mettons, 90 décibels, eh bien ne sortiront que 33-35 décibels. Tout ça, évidemment, c'est de bon augure pour l'avenir et pour l'entente avec le voisinage.
C'était un sujet de Nathalie Maury de Radio Margeride. Et on termine ce carnet de région avec le top départ pour Octobre Rose, l'opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Une boutique très particulière a ouvert il y a 2 semaines à Montpellier. La boutique de Marie propose des articles spécialisés pour les malades. Alice Berthias a rencontré la patronne, Marie Bello.
J'avais envie de faire de mes deux cancers une force.
Marie Bello a ouvert sa boutique il y a 2 semaines, une évidence pour celle qui a surmonté 2 cancers du sein. La boutique de Marie répond à un véritable besoin des malades.
Ça a été compliqué pour moi parce qu'il a fallu que j'aille à un endroit pour chercher ma perruque, à un autre endroit pour chercher ma prothèse de ma mère, encore un autre endroit pour les cosmétiques. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à rassembler rassembler la totalité des choses dont on a besoin.
Dans le magasin, on trouve donc de tout, foulards, prothèses, mais aussi de la lingerie. Se sentir belle même quand on est malade, c'est possible.
C'est un point très important de garder sa féminité pour prendre confiance en soi et se battre.
C'est le premier magasin de ce genre dans l'Hérault, un magasin mais aussi un lieu de rencontre et d'échange d'expériences.
J'ai voulu créer un salon cosy où on se sente bien pour le partage. Voilà, il y a pas mal de choses dont on n'ose pas parler à son médecin ou à son entourage. J'avais une amie qui était malade en même temps que moi, donc ça nous a vraiment aidé toutes les deux à partager la maladie et avancer.
Aujourd'hui, en plein lancement de l'opération Octobre Rose, Marie Bello a un message à faire passer.
C'est de s'observer, de s'écouter, de ne pas en faire une psychose, mais c'est très important. Moi, ça m'a sauvé la vie 2 fois.
S'observer, mais aussi se faire dépister. La Mamobile mobile sera présente samedi, place de la Comédie.
Reportage d'Alice Bertias pour RCF Maguelon Hérault à la boutique de Marie située rue d'Alfaux à Montpellier. Merci d'avoir été à l'écoute de ce carnet de région et merci aux radios ayant participé et à la semaine prochaine.
Carnet de région
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.